Bonjour à tous, aujourd'hui l'affaire Seznec, une émission initialement prévue hier mais que nous avons reportée aujourd'hui pour attendre la décision de la Cour de révision. Il n'y a que les coupables qui demandent pardon. Guillaume Seznec. D'histoire. En refusant hier la réhabilitation de Guillaume Seznec, la justice mettait un point final à une affaire qui dure depuis 82 ans. Depuis qu'en 1924, Seznec avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d'un conseiller général du Finistère dont on n'a jamais retrouvé le cadavre. L'affaire aurait pu en rester là, et Seznec aurait pu mourir en Guyane, si toute une famille, de la femme de Seznec, Marie-Jeanne, jusqu'à son petit-fils aujourd'hui, ne s'était mobilisée pour défendre l'honneur de son nom et faire réviser un procès qui, depuis 82 ans, passionne les Français. Jusqu'à ce que la Cour de révision refuse de revenir sur la condamnation de 1924. Claire Servageant, hier à 14h, sur France Inter.
La Cour de révision refuse de décharger la mémoire de Guillaume Seznec. Elle rejette le énième recours en révision déposé par la famille de cet homme condamné en 1924 aux travaux forcés pour la mort de Pierre Kemner, un meurtre qu'il avait toujours nié. Pourtant, cette fois, la famille de Guillaume Seznec y croyait car la demande de révision avait été déposée par la chancellerie. Finalement, la justice a dit non.
La justice aujourd'hui avait rendez-vous avec l'histoire. À une simple majorité, la chambre criminelle, transformée en cour de révision, a refusé de réhabiliter mon grand-père. La justice a ainsi complètement raté une occasion historique et unique de montrer à son plus haut niveau qu'elle était capable de reconnaître une erreur judiciaire.
C'était Denis Seznec hier, donc, à Paris, après la décision de la Cour de cassation. Bernèse Rousse, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a 3 mois un livre, l'affaire Kemner-Seznec, dans lequel, contrairement à beaucoup de journalistes ou d'historiens, et même à une bonne partie de l'opinion publique, vous n'écartez pas, vous, l'hypothèse de la culpabilité de Seznec, ce qui va dans le sens, d'ailleurs, de la décision qui a été prise hier. Un commentaire, peut-être, sur ce refus de réhabiliter Seznec?
Oui, je crois qu'entre le cœur et la raison, les magistrats ont bien sûr choisi la raison et n'ont pas été sensibles à l'appel pathétique du petit-fils, ça c'est clair. Mais ce n'est pas une décision très étonnante au vu du dossier. Tout ce qui était amassé par les défenseurs de Seznec depuis 2001, depuis la demande de révision, ne reposait en fait que sur des témoignages tardifs et des témoignages indirects. Donc ce n'est pas étonnant que la Cour de révision n'ait pas retenu ça. Juste un exemple, on a par exemple une dame qui a déposé en 2002... pour dire qu'en 1950, il y a une bonne sœur qui lui a dit que la supérieure du couvent avait vu Seznec le 13 juin 1923 à Saint-Brieuc. Vous voyez que des arguments comme ça, alors que dans le dossier, il y a 10 personnes qui l'ont vu au Havre ce jour-là, un argument comme ça ne peut pas porter devant une cour de cassation.
Alors c'est une affaire extrêmement complexe qu'il faut rappeler, dont il faut rappeler l'origine. Tout commence il y a 83 ans par le départ de deux hommes, Guillaume Seznec et Pierre Kemener, le 23 mai 1923, ils vont de Morlaix à Paris en voiture. Hein, je crois que c'était pour vendre ou revendre des Cadillacs, des stocks de l'armée américaine. Et puis le 28 mai, hein, 5 jours plus tard, Seznec revient seul. Kemener a disparu. Seznec prétend l'avoir laissé à Oudan ou à Dreux parce que sa voiture était en panne. La famille de Kemener s'inquiète, mais le 13 juin, elle reçoit un télégramme du Havre dans lequel Pierre Kemener les rassure. Le 20 juin, on retrouve au Havre la valise de Kemener avec une promesse de vente, la vente d'une maison qu'il promet à Seznec. Et il n'en faut pas plus pour que la police soupçonne Seznec d'avoir assassiné Kemener, rédigé lui-même la promesse de vente et le télégramme, et cela donc devant la police qui commence à enquêter.
Nom.
Seznec.
Prénom.
Guillaume Marie.
Date et lieu de naissance.
1er mai 1878. La comédien dans Finistère.
J'ai des nouveaux pour vous, monsieur Seznec. Le juge d'instruction de Brest vient de vous inculper pour assassinat et faux en écriture. Vous êtes donc en état d'arrestation.
C'est pas possible.
Est-ce que vous voulez bien me suivre?
Par ici, monsieur Seznec.
Et Seznec ne retrouvera la liberté que 23 ans plus tard. Sur quoi Bernays Rouge repose les soupçons de la police en 1923?
D'abord, Seznec est théoriquement le dernier qui a vu Kemener. Donc forcément, la police devait l'interroger, ça paraît clair. Mais ce qui a surpris les policiers, c'est de voir cette promesse de vente pour un prix ridicule. C'est-à-dire, c'était 35 000 francs. Un franc de l'époque, c'est à peu près un euro d'aujourd'hui. Or, il s'agit d'un manoir avec énormément de terres superbement situées dans les Côtes d'Armor, et la police dit c'est pas possible qu'il ait pu vendre pour 35 000 parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Et Seznec va être obligé d'expliquer qu'en fait, il y a eu un dessous de table important de 65 000 francs en dollars or pendant la guerre, et donc il est obligé d'expliquer tout, d'où vient les dollars or, etc., la tractation, et puis il s'embrouille dans ses explications, et ce qui fait que la police trouve ça vraiment très très curieux.
Enfin, elle le soupçonne tout simplement d'avoir assassiné Kemener pour avoir une maison marché en quelque sorte dans cette promesse de vente qu'il soupçonne donc Seznec d'avoir rédigé. Il y a aussi la machine à écrire avec laquelle elle a été écrite, et quelques jours après l'arrestation de Seznec, on découvre cette machine chez Seznec.
Oui, le deuxième élément de doute important, c'était qu'il était presque arrivé à Paris et qu'il fait demi-tour pour réparer sa voiture à Morlaix.
Or, En
laissant Kemener, on ne sait pas où, enfin, il dit que Kemener est parti à Paris et tout ça. Oui. Donc, les policiers trouvent ça très curieux qu'il abandonne Kemener à Paris alors qu'il devait faire des affaires ensemble, et que surtout une voiture qui était poussive et qui était tout le temps en panne, qui refasse 500 kilomètres pour retourner à Morlaix avec. Donc ça, c'était la deuxième affaire curieuse. Et puis la troisième, c'est l'histoire de la machine à écrire, parce que effectivement, au début juillet, les policiers trouvent chez lui dans un grenier, dans un endroit un petit peu caché, une machine à écrire, et en faisant les essais, ils s'aperçoivent que c'est la machine à écrire qui a servi à taper les promesses de vente. Or, cette machine à écrire a été achetée au Havre le 13 juin, qui est la date fatidique qui va justement faire que Seznec n'arrivera pas à expliquer où il était le 13 juin. Il dit qu'il n'est pas au Havre, mais personne, aucun témoin n'affirme l'avoir vu en Bretagne ce jour-là.
Oui, on pense qu'il est au Havre parce qu'on se dit que ce fameux télégramme qu'envoie Kemener à sa famille pour dire « Rassurez-vous, je suis au Havre, je rentrerai bientôt », on soupçonne Seznec aussi d'avoir fait un autre faux, c'est-à-dire d'avoir envoyé lui-même ce télégramme. Et quand on demande à Seznec où est-ce que vous étiez le jour où il a été envoyé du Havre, il dit non, j'étais pas au Havre, j'étais à Saint-Brieuc. Le problème, c'est qu'il ne se souvient plus de l'hôtel où il avait couché à Saint-Brieuc cette nuit-là.
Oui, il a inventé une histoire qui est assez abracadabrante, en fait, où il a laissé
sa voiture. Oui, qu'il a inventé, mais enfin bon.
Oui, sa voiture est tombée en panne à Plouharette, donc à quelques kilomètres de Saint-Brieuc, et il dit qu'il est allé chercher une pièce pour réparer sa voiture à Saint-Brieuc. Il a dormi à Saint-Brieuc, il est revenu. Mais au lieu de revenir à Plouharette, il retourne à Brest, après il revient par Morlaix, et puis il retourne chercher sa voiture. Vous voyez, c'est quelque chose pareil qui est très embrouillé, très compliqué, et les policiers, avec des versions comme ça, n'y croient pas du tout. Et donc, ils sont pratiquement persuadés dès le départ que Seznec est coupable, et ils resteront sur cette position-là, c'est-à-dire il est coupable en fait d'avoir tué Kemener pour le spolier de son bien, de son manoir de Plourivaux dans les Côtes d'Armor.
Alors le pauvre Seznec aggrave son cas, parce que pendant qu'il est justement détenu, il envoie une lettre à sa femme, Marie-Jeanne, pour lui demander de trouver des témoins à décharge.
Voilà, parce que son problème, c'est que le 13 juin, il n'arrive pas à prouver qu'il est en Bretagne. C'est la date absolue. Et donc l'accusation dit qu'il était au Havre, puisqu'il y a au moins une douzaine de témoins qui l'ont vu ou dans le train ou au Havre ou revenant du Havre avec un lourd paquet sur l'épaule qui était donc la machine à écrire. Et donc il n'arrive pas, il faut à tout prix qu'il prouve qu'il était en Bretagne, que quelqu'un l'a vu en Bretagne. Alors il cite tout un tas de témoins, mais tous ces témoins disent non, c'était pas ce jour-là, moi je l'ai vu cette semaine-là, mais pas ce jour-là. Et sa propre femme et sa propre bonne disent qu'il n'a pas dormi chez lui le 13 au soir. Ni le 12 au soir, ni le 13 au soir. Donc personne ne sait exactement ce qu'il a fait, et aucun témoin local en Bretagne n'abonde dans son sens.
Alors beaucoup de choses évidemment à sa charge, ce qui explique le 4 novembre 1924 le verdict de la cour d'assises de Quimper devant laquelle s'est déroulé le procès de Seznec en 1924.
À la première question, Seznec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Quémeneur ? La réponse est oui à la majorité.
À la question « Y a-t-il eu préméditation ? » La réponse est non à la majorité. À la question « Y a-t-il eu guet-apens ? » La réponse est non à la majorité.
Vous sauvez votre tête, Seznec.
Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français, l'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la cour condamne Seznec Joseph Marie Guillaume aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée.
Cet avril quitte Saint-Martin. Si sans nous sommes embarqués sur la Martinière, faire équage pour fauveux humains. Dans trois semaines, c'est la Guyane et c'est l'oubli. Les chavouches de nous mettre nus, zébrés de rouge et blanc, zébrés et fer et flamme. Flamme et fer, ici tu n'es plus. Pauvre Guillaume, que 49 302.
C'était Triane, une très belle chanson sur Guillaume Seznec, le bagne de Guyane où Seznec arrive en 1927 avec le matricule 49302. Il y arrive 3 ans après sa condamnation en 1927, donc il y restera 20 ans. Alors il y serait mort si, après sa condamnation, sa famille ne s'était pas mobilisée pour faire réviser immédiatement son procès. D'abord, il y a sa femme, Marie-Jeanne. L'affaire Quémeneur devient à ce moment-là l'affaire Seznec. Sur quoi, Bernès Rousse, se fonde la défense de Seznec?
Alors, d'abord, il faut savoir que la décision qu'on vient d'entendre, là, s'est faite dans la confusion. Toute l'accusation donnait un assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Or, les jurés n'ont pas suivi.
On l'a entendu. Il n'y a pas eu préméditation.
Il n'y a pas eu préméditation. Il y a donc eu meurtre. Et en fait, on sait maintenant qu'il y a quelqu'un parmi les jurés qui a dit, mais c'est simplement parce qu'ils se sont battus dans la voiture, parce que la femme de Seznec était la maîtresse de Quémeneur. Et donc, il y a eu une histoire. Bon. Alors, c'était évidemment des rumeurs totalement infondées. Et puis, en fait, ce qui montre bien que les jurés ne croyaient pas complètement dans la thèse policière de préméditation, de quelque chose vraiment très organisé, etc. Et donc, il y a eu un premier recul, il y a eu une première confusion. Et la deuxième chose, c'est que les jurés se sont trompés. Dans un premier temps, il y en a un qui a pas trop compris ce que c'était la préméditation, qui a dit oui, il y avait préméditation. Et après, ils sont revenus là-dessus parce que ils n'ont pas trop compris. Donc, voilà.
On a beaucoup contesté quand même ce procès, Bernès Rousse.
Pas à l'époque, pas à l'époque. La contestation ne commence qu'un tout petit peu plus tard.
Oui, mais quand même, il n'y a pas de cadavre. Il y a un mobile, mais tout ça repose uniquement sur des présomptions et sur donc la conviction intime des jurés. Bon, ça c'est la loi française. Mais enfin, il n'y a pas de preuves matérielles concrètes, il y a des suppositions. Et puis alors surtout, on a accusé justement ce procès d'avoir fait la part belle aux témoins à charge et pas tellement aux témoins à décharge. Il y a beaucoup de témoins qui disent avoir vu Quémeneur après la date supposée de sa mort, qu'ils l'auraient vu à Paris.
Oui, il y en a 4. Donc les quatre ont été entendus au procès. Les quatre se sont expliqués, ont été donc normalement entendus, sans qu'ils soient très crédibles, parce que il y avait des gens qui étaient vieux, et en plus quelque chose qui est terrible, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prétendu l'avoir vu, alors qu'il y a un autre de ces quatre témoins là qui l'a vu au même moment à Paris, et l'autre l'a vu à Rennes. Donc vous voyez, donc du coup évidemment ça a décrédibilisé complètement la défense de Cézenec, qui n'a pas pu faire valoir, et le principal témoin qui est François Leher était lui déjà vu des problèmes parce qu'il était passé aux assises pour viol et il avait d'énormes problèmes judiciaires et une très très mauvaise réputation, ce qui fait que on ne l'a pas cru non plus. Et on sait, moi j'ai recueilli effectivement dans des témoignages plus tard en 46-47, puisque la police s'est de nouveau occupée de Leher, parce que pour des faits de collaboration, et que Leher a dit à un policier que il avait fait un faux témoignage à l'époque. C'est qu'il a dit qu'il a fait effectivement rencontrer Kemener à Paris, mais pas à la date où il a dit.
Oui, mais enfin, Berdesrouz, il y a aussi quelque chose d'autre qui est très troublant, c'est que 6 des jurés ont regretté le verdict de 1924 et ont dit qu'au fond, ils avaient peut-être envoyé au bagne un innocent.
Oui, tout à fait, mais c'est normal. C'est-à-dire que dès 1925, bon, la Cour de cassation est saisie, évidemment, et rejette un premier appel. La première chose importante, là, c'est 1926. C'est-à-dire, il se passe deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une lettre qui vient d'Algérie de quelqu'un qui dit qu'il a connu Kemener à l'hôpital psychiatrique de Quimper. Et donc, évidemment, la femme de Cézenec tout de suite saisit et la presse et donc demande une révision du procès. Mais on s'aperçoit que ce gars-là qui était à l'hôpital psychiatrique n'avait pas toute sa tête, que c'était un truc complètement farfelu. Et tout de suite après, la semaine d'après, on retrouve Gerdy à Paris. Les journalistes retrouvent Gerdy à Paris, et Gerdy, qui est le commanditaire des Cadillacs à Paris ou des voitures américaines, ou le commanditaire supposé au moins, ce Gerdy-là, on a dit pendant le procès qu'il n'existait pas, que c'était une pure invention de Cézenec. Or, dès qu'on a trouvé ce Gerdy-là, on aurait dû refaire le procès, parce que c'était le personnage clé, mais on verra que tout ce qui concerne le trafic des Cadillacs a été totalement occulté pendant l'instruction sur la demande de Cézenec.
En tout cas, tout le monde se demande si Cézenec est véritablement coupable, y compris le directeur du bagne de Guyane qui allait demander la grâce de Cézenec à Paris.
Voilà, je voulais vous prévenir. Je pars en congé en France. Et en raison de votre bonne tenue, j'ai l'intention de lui parler de vous, ministre. Faites une demande de grâce. Et je vous promets de l'obtenir.
Une demande de grâce? Je vous remercie, mais je ne veux pas être gracié. Il n'y a que les coupables qui demandent pardon. Moi, je suis innocent.
Et je sais, Cézenec. Mais une grâce vous permettrait de retrouver vos enfants.
Je veux rentrer la tête haute. La seule chose qui puisse me satisfaire, c'est la révision de mon procès. Et la reconnaissance de mon innocence.
C'est en Guyane que se trouvent le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus. Voici parmi les vedettes, Paoli et Cézenec, qui proclament toujours son innocence.
C'était une archive datée de 1937. Cézenec qui a toujours effectivement proclamé son innocence, qui ne voulait pas de la grâce, qui voulait la réhabilitation. Alors, il trouve quand même, tous ceux qui le défendent, un soutien inattendu. C'est un des policiers chargés de l'enquête et qui était tout simplement Pierre Bonny. Alors, Pierre Bonny, ça dit peut-être plus grand-chose à qui que ce soit aujourd'hui, mais c'est quand même un policier qui est devenu un collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, avant d'être condamné à mort et fusillé, a dit, un, c'est moi qui ai mis la machine à écrire qui accablait Cézenec chez Cézenec. Deux, il regrettait d'avoir fait condamner un innocent.
Alors Pierre Bonny dit ça juste avant de passer à la guillotine, et j'ai retrouvé le même parallèle chez François Leher, qui donc aussi a collaboré pendant la guerre et qui se trouve dans un camp de prisonniers tenu par les Américains à Saint-Pabu dans le Finistère, et il va avoir exactement la même démarche, c'est-à-dire il est persuadé qu'il va être fusillé, et le jour avant il dit dans un interrogatoire fait par la police, c'était des Canadiens québécois qui qu'il faisait à cause du français, il dit que c'est moi qui ai tué Kemener. Et il a la même chose parce qu'il espère que le procès Sesnek va être réouvert et que du coup il va sauver sa tête. Or Boni a eu exactement, et c'est un parallèle frappant, a eu exactement la même chose. C'est-à-dire le jour avant d'être fusillé, il dit bah, c'est moi qui ai trafiqué tout le procès, en espérant qu'on va réouvrir le procès et que donc on va le garder sous le coude pour qu'il puisse retémoigner et refaire. C'est-à-dire, on a exactement le même phénomène.
Alors est au moment de la libération, le moment est en 1940. Lorsque le général de Gaulle gracie Sesnec, qui revient en France en 1947 et découvrant un pays qu'il avait quitté 20 ans auparavant et qu'il ne reconnaissait plus, c'est ce qu'il disait dans cet enregistrement unique de la voix de Guillaume Sesnec en 1950.
J'avais 45 ans quand je suis rentré au Rhin.
Vous ne vous réadaptez pas facilement?
C'est-à-dire, ça me paraît tout à fait anormal. C'était comme en 24.
La vie était plus facile à ce moment-là.
Oui, c'était plus la même chose. Les mœurs n'étaient plus les mêmes.
Les mœurs?
Les mœurs, et puis enfin tout. Tout, rien n'était pareil comme quand je suis parti au bagne.
Grande Nouvelle-Bretagne, Sesnec est arrivé tantôt. De plus de 20 ans de bagne, il nous revient tomber.
Alors c'est le groupe Trial encore. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Bernays Rouze, que l'opinion publique, qui était certaine en 1924 de la culpabilité de Sesnec, prenne son parti au fur et à mesure que le temps passe, y compris après son retour de Guyane? Qu'est-ce qui a fait basculer cette opinion, persuadé dans sa majorité, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que Sesnec était innocent?
Je crois qu'il y a eu des campagnes très fortes, c'est-à-dire il y a eu dans les années 30 le juge Hervé qui a essayé donc de remuer les foules et qui a fait une campagne de presse énorme justement pour reviser le procès sur les affaires de Plouriveau justement. Et
la maison de Kemener.
La maison de Kemener dans les Côtes d'Armor, parce qu'en fait, et j'ai pu le vérifier, il n'y a eu aucune investigation au moment du procès à Plouriveau, alors que c'était vraiment le thème central pour la police, c'était ça qui était le cœur du problème. Or, il n'y a eu, personne n'est allé voir. Le premier qui va voir, c'est le juge Hervé. Le problème, c'est qu'il reprend l'enquête 10 ans après, et 10 ans après, il essaye de changer les dates, etc., alors que c'était lui qui avait fait les PV.
L'opinion, elle se perd un peu, parce que c'est très compliqué, cette affaire. Il y a quand même l'action de la famille, on l'a évoqué, il y a eu Marie-Jeanne, la femme de Sesnec, puis quand elle est morte en 1931, le relais a été pris par la propre mère de Sesnec, et puis par son petit-fils, hein, qui depuis 30 ans se bat pour la réhabilitation de son père. On l'écoute d'ailleurs en 2001 quand il croyait être arrivé pratiquement à le faire réhabiliter, quand le garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, avait décidé de rouvrir le procès.
C'est une lutte de 78 ans. Jusqu'ici, c'était moi qui le demandais. Avant, c'était ma mère, c'était mon grand-père. Maintenant, c'est le garde des Sceaux. C'est une autre paire de manches qui va se produire.
Denis Sesnec, avez-vous aujourd'hui même un souvenir d'enfance qui vous revient en mémoire?
C'est une phrase de ma grand-mère, Marie-Jeanne, la femme de mon grand-père, qui est morte dans la misère et qui a meuté les foules pour mon grand-père. Elle est morte à 47 ans. Mais quand mon grand-père est parti au bagne, elle écrit à Paul Doumer, le président de la République, la seule lettre qu'elle lui écrit. Et vous savez, une phrase qu'elle écrit dans cette lettre, qui me touche terriblement, elle dit « Un jour, un enfant de mes enfants vous fera rendre gorge de l'injustice que vous avez fait subir à leur père. » Eh bien, j'ai le sentiment que ça se réalise.
Alors on imagine la déception de Denis Sesnec qu'on entendait il y a 5 ans, on l'imagine bien sûr aujourd'hui avec la décision qui a été prise hier de refuser la réhabilitation. Si Sesnec était innocent, quelles sont les autres hypothèses, vous les passez en revue, Bernays Rouze, dans votre livre, qui expliqueraient la disparition de Kemener? On parle par exemple, on dit que Kemener serait parti à l'étranger.
Oui, c'était la thèse de Frédéric Potcher, de dire qu'il était parti aux Amériques, hein, où il avait quelques relations d'affaires également en Grande-Bretagne, donc mais bon, personne, on n'a pas trouvé trace de lui ni en Amérique, etc. Donc ça reste une hypothèse qui est totalement pour le moment infondée. Il y a une deuxième hypothèse, et que donc un meurtre familial, c'est-à-dire que de dire que c'est son frère et son beau-frère, donc le notaire Pouliquen, qui l'aurait tué au manoir de Plouriveau, donc suite à des événements qui se seraient déroulés vers le 25-26 mai. On l'a aussi, ça a été une campagne très forte. ne peut pas. On ne peut pas aller au bout de cette hypothèse parce que, bon, il y a eu décision de justice là-dessus parce que Pouliquen et Louis Kemener avaient porté l'affaire en justice et donc l'affaire est aussi classée.
On parle aussi d'un complot, hein, voilà, visant à faire disparaître Kemener qui serait mêlé à un trafic de Cadillac. Justement, c'était quand même la raison de leur départ à Paris, en direction de l'URSS.
Oui, alors c'est la seule hypothèse qui me semble intéressante et à creuser. Je suis très déçu de cette de tout ce qui s'est passé depuis 2001 parce que ni les avocats de Sesnec ni d'ailleurs la Cour de cassation n'a vraiment fait d'investigation sérieuse sur un trafic de Cadillac, sur le gang des Cadillac. Or moi j'ai pu montrer dans mon livre qu'il y avait autour de Brest et de Saint-Nazaire qui étaient les gros centres américains, il y a eu énormément de trafic, mais alors des trains entiers, des centaines de voitures qui ont été volées et qui ont été dispatchées à travers la France.
Donc
il y avait il y avait un trafic de Cadillac, ça c'est clair.
C'était des Cadillac des stocks de l'armée américaine, de la Première Guerre mondiale.
Qui étaient revendus par les services. Il y avait un ministère, un sous-ministère, en fait, des stocks américains, et qui étaient vendus par eux. Donc, il y avait aussi un stock ici à Paris, sous la Tour Eiffel. Et donc, il y a eu tout un tas de trafic là-dessus. Et quand la Cour de cassation nous dit que ce trafic n'est pas avéré, je reste assez pantois, parce que ce qui a pu arriver, c'est que effectivement, et c'est à mon avis la seule chose qu'il faut encore creuser, qu'on peut voir, si c'est Sesnec a effectivement quitté Kemener et donc Kemener a pris le train pour Paris. Il a rencontré ces gens-là qui trafiquaient les ou qui voulaient acheter des voitures américaines pour les revendre aux Russes, ce qui était illégal à l'époque, mais Kemener les a rencontrés. Ces gens-là, c'était des ferrailleurs, c'était des gens qui travaillaient dans les pièces détachées d'automobiles. Il y avait tout un... La presse à l'époque avait appelé ça le gang des Cadillac. Alors ce gang des Cadillac disparaît complètement sur la demande de Sesnec, parce que j'ai pu montrer que Sesnec avait été inquiété parce que lui-même avait acheté des voitures, des Cadillac ici à Paris, pour un marché important au niveau français. Donc, si vous voulez, Sesnec a voulu qu'on ne parle pas de Cadillac. Son avocat de Moreau Giafferi lui a dit de pas parler de Cadillac parce que ça fait mauvais genre. Et du coup, le juge n'est pas allé voir dans les Cadillac et personne n'est allé voir à l'époque dans les Cadillac. Ce qui fait que actuellement, alors que ces archives existent encore quelque part, personne non plus n'est allé voir dans ces histoires de Cadillac. Et donc, on ne saura jamais, puisque ou alors c'est peut-être que une archive providentielle va nous donner peut-être la clé de cette affaire. Kemener a très bien pu être tué à Paris par ce gang des Cadillac parce qu'il se promenait avec une valise, avec les dollars or de Sesnec et avec son propre argent.
Est-ce que cette affaire est close maintenant avec la décision de la Cour de cassation, Bernard Rose, selon vous?
L'affaire va être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais vous savez que même une décision favorable en disant que la justice française n'a pas bien fait son travail n'a pas d'influence sur un arrêt de la Cour de cassation. Donc c'est juste, j'allais dire, pour terminer peut-être en beauté ce combat, mais ça n'aura aucune influence sur la justice française.
Merci Bernays Rose d'être venu nous en parler, donc, et aussi de la rappeler, parce qu'elle est très compliquée, et vous avez fait une véritable enquête pour écrire ce livre, de l'écrire donc, l'affaire Kemener-Sesnec, enquête sur un mystère, qui a été publiée aux éditions Apogée. Je signale également un livre, Grandes erreurs judiciaires, aux éditions Prat, qui, comme son titre l'indique, considère au contraire que Sesnec a été la victime d'une erreur judiciaire. Vous avez pu entendre des extraits du film L'affaire Sesnec d'Yves Boisset, avec Christophe Malavoy dans le rôle titre, disponible en DVD aux éditions TF1 Vidéo, ainsi qu'une archive pâtée issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Des informations sur notre émission sont disponibles aussi par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Cédric Lalanne, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac.